Vous écoutez RTL.
Le journal avec vous, Jérôme Florin, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, cette pétition qui risque de faire beaucoup de bruit chez les médecins.
Leurs signataires veulent faire interdire formellement les relations sexuelles entre médecins et patients. Après les attaques terroristes de Carcassonne et de Trèbes, beaucoup de questions sur le suivi des fichiers S. Une nouvelle fois, nous vous expliquerons comment fonctionne cette surveillance au niveau local. Les États-Unis qui frappent fort, après l'empoisonnement d'un ancien espion en Angleterre, la Maison-Blanche annonce l'expulsion de 60 diplomates russe du jamais vu. Et puis les Bleus en Russie, justement, ce soir, dernier match de préparation avant la liste définitive. Il va falloir faire oublier le faux pas contre la Colombie.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec la déclaration choc de Marine Le Pen.
La patronne du FN qui commence dangereusement à se répéter.
De météo d'ici 7h.
Et le temps sera pluvieux aujourd'hui à Château-Thierry dans l'Aisne. Il y est prévu 11 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Et avant toute chose, donc, cette pétition signée par plusieurs médecins et féministes.
Mise en ligne cette nuit et intitulée « Opération serment d'Hippocrate ». Le texte est notamment soutenu par le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon. Il demande que soit inscrit noir sur blanc dans le code de la déontologie médicale l'interdiction formelle de toute relation sexuelle entre le professionnel de santé et ses patients. Les victimes de viol disent avoir besoin de cette précision formelle pour donner du poids à leurs paroles. Écoutez le témoignage d'Ariane. Elle a 60 ans. Elle affirme avoir été abusée il y a 10 ans par son psychanalyste.
Un jour, j'avais pris rendez-vous. Pareil que d'habitude, sauf qu'il m'a sauté dessus. Il s'approche. Il me prenait la main. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. Vous avez déjà quelqu'un sur vous qui vous touche, qui est à moitié déshabillé. Mais vous êtes encore en train de parler à un type qui était derrière son bureau et qui n'y est plus. Enfin, il me dit, mais non, mais ça peut faire partie de votre thérapie. Bon, c'est peut-être pas orthodoxe, mais et j'étais paralysée. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Parce que j'étais avec mon médecin, parce qu'il m'a dit de lui faire confiance, parce qu'on croit que c'est interdit, qu'on ne va pas être amené à se défendre. Et moi, ça a détruit ma confiance dans le milieu médical en général, parce qu'aucun médecin ne m'a soutenue. Et j'avais connu ça dans mon enfance, quand j'ai vécu l'inceste, puisque c'était pareil. C'était pas reconnu, on me jugeait folle, on me jugeait menteuse. Je crois que j'avais envie de mourir. Je comprends celles qui ont envie de mourir. C'était l'inhumain.
Témoignage recueilli par Alice Moreno pour RTL.
Alors, faut-il graver dans le marbre du code de déontologie l'interdiction de toute relation sexuelle entre médecins et patients? Le débat est donc lancé avec sans doute une première réaction de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On vous rappelle qu'elle sera notre invitée à 7h45 sur RTL et que les dossiers chauds sont très nombreux sur la table. 6h33, vous écoutez RTL. Le terroriste de Carcassonne et de Trèbes était toujours suivi par les services de renseignement quand il est passé à l'acte vendredi.
C'est ce qu'a affirmé le procureur de Paris, François Molins, dans une conférence de presse. Ce suivi, à l'évidence, n'a rien révélé de ses intentions. Juste après l'attentat, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il avait demandé au préfet de convoquer les groupes d'évaluation départementale. Ce sont ces unités censées surveiller les individus radicalisés. Annonce de pure forme, Cindy Hubert.
Oui, cette convocation n'a en réalité rien de nouveau puisque ces réunions se tiennent déjà toutes les semaines dans chaque département. C'est au sein de ces petits groupes restreints que l'on passe en revue toutes les fiches des personnes radicalisées. Les renseignements, la police, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, le parquet, tous croisent leurs informations. Et c'est ainsi que l'on attribue telle ou telle cible à la DGSI ou au renseignement territorial en fonction de sa dangerosité supposée, explique un agent, de son pédigré. Chaque cas est réévalué très régulièrement. 20 000 personnes sont ainsi suivies dans toute la France, mais seule la moitié est suivie de manière dite active. Les autres fiches sont clôturées, c'est-à-dire que les personnes ne sont plus surveillées, mais elles ne sont pas supprimées du fichier par prudence. D'autres fiches sont mises en veille, toujours attribuées à un service, sans pour autant être des cibles prioritaires. Précisément ce qui semble avoir été le cas dans le suivi de Radouane Lakhkim.
Cindy Hubert, la compagne du terroriste, est elle toujours en garde à vue. Convertie il y a 2 ans, elle tient un discours radical devant les enquêteurs, mais nie avoir été au courant des projets de Radouane Lakhkim. Et puis le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était sacrifié en se substituant à une otage, sera honoré demain, hommage national aux Invalides, en présence d'Emmanuel Macron. Les familles des autres victimes sont également invitées. Quant au jeune conducteur dont la voiture avait été volée par l'assaillant vendredi matin, il est toujours dans un état préoccupant. Renato Silva, 26 ans, a reçu une balle dans la tête. Il est plongé dans un coma artificiel. Les deux suspects en garde à vue pour le meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, tué dans son appartement du 11e arrondissement, doivent être présents dans les heures qui viennent à un juge. La victime a reçu 11 coups de couteau. Le parquet a retenu le mobile antisémite. Une marche blanche sera organisée demain à Paris à l'appel du CRIF. Après 3 semaines de procès, Jacques Ranson est condamné à la perpétuité dont 22 ans de sûreté. Le tueur de Perpignan, a été reconnu coupable de viol, de meurtre et de tentative.
Les diplomates russes, persona non grata en Europe et aux États-Unis. On en parle tout de suite sur RTL, juste après la pause dans ce journal. Bon réveil.
RTL Matin,
Julien Cellier.
Excellent réveil, vous écoutez RTL, 6h37, la suite de votre journal. Trois semaines après l'empoisonnement de Sergueï Skripal en Angleterre, eh bien les diplomates russes sont priés de rentrer chez eux.
Ils sont plus d'une centaine maintenant à devoir faire leur carton en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis qui viennent d'annoncer l'expulsion de 60 espions, selon le terme de la Maison-Blanche, Philippe Corbet.
Et même sous la guerre froide, jamais autant n'avaient été expulsés en même temps. 48 à Washington, 12 ici aux Nations Unies, des diplomates soupçonnés d'être en réalité des espions. Les États-Unis annoncent aussi la fermeture du consulat russe de Seattle au nord-ouest en raison de sa proximité avec une base de sous-marins et Boeing. La Maison-Blanche précise que c'est le président lui-même qui a pris la décision, alors qu'il a été critiqué ici pour avoir tardé à pointer du doigt la responsabilité russe dans l'affaire Skripal et pour ne pas avoir demandé des comptes à Poutine la semaine dernière au téléphone, contrairement à ce que lui avaient demandé ses diplomates. Il lui a aussi été reproché de l'avoir congratulé pour sa réélection, alors que sa fiche indiquait, en lettres capitales, ne pas le féliciter. Ses opposants demandent régulièrement pourquoi il épargne ainsi Poutine. L'ambassade russe à Washington a proposé un vote sur Twitter. Quel consulat américain en Russie doit être fermé ?
Philippe Corbet, et après l'Angleterre, l'Islande a décidé de boycotter à son tour diplomatiquement le mondial de football en Russie, c'est-à-dire qu'elle n'y enverra pas d'officiel. En France, Monoprix pactise avec l'ennemi. Amazon, le distributeur, va mettre des produits en ligne qui seront livrés par le géant de l'e-commerce. Ça ne concernera dans un premier temps que la région parisienne. Le marché de la grande distribution est bousculé par la concurrence, notamment d'Amazon, et doit se réinventer, on l'a vu en janvier, avec Carrefour contraint de supprimer des milliers de postes.
Le foot, les Bleus en mission de reconnaissance à Saint-Pétersbourg.
Les Français affrontent la Russie à 2 mois et demi du mondial qui a lieu, on le rappelle, en Russie. Objectif de ce nouveau match de préparation, se rassurer après le revers infligé par la Colombie vendredi. Philippe Sanfourche.
Voilà 3 ans que les Bleus n'ont plus perdu 2 matchs consécutifs. C'était face à la Belgique au Stade de France déjà, puis un déplacement piégeux en Albanie. Même configuration, même risque aujourd'hui, mais le sélectionneur, lui, n'a qu'une priorité, finaliser sa liste des 23.
Ces 2 matchs, ils doivent servir à ça, et je vous l'ai dit avant le début du stage, et je ne vais pas changer d'optique par rapport au résultat qu'il y a eu vendredi.
En face, la Russie s'annonce revancharde, elle aussi 4 jours après une claque 3-0 face au Brésil. Et si la neige continue de couvrir l'étoile de Saint-Pétersbourg, celui du Zénith Stadium sera fermé ce soir. Un stade chauffé et ultra moderne que Laurent Koscielny aimerait retrouver cet été pour une éventuelle demi-finale.
Sentir un peu l'atmosphère dans ce pays, évoluer dans un stade tout neuf avec certainement une très belle ambiance. Pour la plupart, je pense que ce sera une découverte, mais importante pour la suite.
Un test sportif, mais également d'organisation et de sécurité. La direction française de lutte contre le hooliganisme s'est déplacée à Saint-Pétersbourg pour renforcer sa collaboration avec les autorités russes.
Russie-France, coup d'envoi 17h50, heure française à suivre en fil rouge sur RTL avec un long débrief avec notre consultant Bichente Lizarazu entre 22h et 23h.
Merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure à 8h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, encore une très belle journée.
Chaude et ensoleillée.
Mais si seulement.
Mais non, ça ne sera pas aujourd'hui puisqu'on a encore de la grisaille, une perturbation pluvieuse, venteuse, puis la fraîcheur ce matin. On n'a que 2 degrés par exemple à Nancy ou encore à Lille, 3 à Millau, il faut vraiment aller en Bretagne ou alors vraiment vers le Var, Toulon et Vannes, Brest où on a 11 degrés. Cet après-midi, ce sera frais sur le centre-est et le nord-est. Hein. Il fera entre 5 et 9 degrés. Ailleurs, on sera entre 11 et 17 degrés. 11 à Lille, 13 à Paris, 17 à Toulon. Côté ciel, donc cette perturbation pluvieuse qui s'étend en ce moment de la Seine-Maritime à l'ouest de l'Île-de-France en allant vers la Nouvelle-Aquitaine qui ensuite cet après-midi s'étendra du sud-ouest en allant vers le centre-est et en montant vers le Grand-Est. À l'arrière, elle laissera un ciel quand même couvert et puis il y aura toujours un petit risque d'averse, moins que sous la perturbation évidemment, mais voilà, un risque d'averse, toujours du vent. Le plus simple c'est de vous dire là où il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, c'est sur la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes. Du beau ce matin, un petit peu plus voilé cet après-midi, mais pas désagréable.
Merci beaucoup Marina.